La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine aux femmes et aux hommes engagés dans l'accueil des réfugiés en Europe.
Parti de Beyrouth au Liban, un premier groupe d'une centaine de réfugiés syriens est arrivé en Allemagne. Ils disposeront dans un premier temps d'un permis de séjour de 2 ans. Nous émigrons en Allemagne parce que la situation n'est pas bonne chez nous, explique Mounira, originaire de Damas. Mes frères et mes sœurs pourront faire des études là-bas.
L'Allemagne est un pays fort. Et voici l'état d'esprit avec lequel nous devons aborder ces choses. Nous y arriverons. Nous avons réussi tant de choses. Nous allons réussir. Et là où nous rencontrerons des obstacles, il faudra les surmonter ensemble. Et l'État fédéral fera tout ce qui est en son pouvoir, avec les régions, avec les communes, pour mettre cela en œuvre.
Nous y arriverons, ce sont les mots prononcés par Angela Merkel lors de sa conférence de presse du 31 août 2015. Quelques jours après, la chancelière allemande décidait d'accueillir des milliers de demandeurs d'asile bloqués en Hongrie. Depuis, l'Allemagne a accueilli 1 million de réfugiés répartis dans ses différents Länder, c'est-à-dire ses régions, selon ses capacités économiques et humaines. Mais la seule volonté politique de Merkel ne peut tout expliquer. C'est pourquoi nous sommes allés chercher du côté de la société civile et de l'histoire. Nous avons voulu comprendre ce qui a motivé des dizaines de milliers de personnes à participer bénévolement à des projets locaux pour venir en aide aux réfugiés dans leurs démarches administratives, pour leur fournir des vêtements ou pour leur donner des cours d'allemand. Et nous nous sommes rendus compte que nombre d'entre eux avaient été confrontés à l'exil dans leur propre famille. Des femmes et des hommmes aujourd'hui concernés par une crise migratoire qui ne date pas d'hier. Ils ont gardé en mémoire les déplacements massifs de populations engendrés par les guerres et les dictatures du XXe siècle, et ils en sont personnellement les témoins. Écoutez leur voix, ils se racontent au micro de Philippine Lebré pour la Marche du Monde.
Comme on voit ici, ce sont des préfabriqués. Il y a tout, il y a les douches, les sanitaires, des cuisines communes.
Wilfried Sering est le cofondateur du collectif Les Nouveaux Voisins à Schönwald, afin de soutenir les réfugiés logés dans son petit village proche de Berlin. 300 réfugiés sont arrivés ici depuis 2015, au milieu d'une petite communauté d'à peine 1000 habitants. À 82 ans, Wilfried Sering a lui aussi connu l'exil et à plusieurs reprises lors de sa longue vie.
Wir befinden uns im Übergangswohnheim in Schönwalde-Dorf am Silberberg.
Nous sommes ici donc dans le foyer transitoire pour les réfugiés. On est dans la cuisine avec des femmes d'origines différentes. Donc il y a des femmes tchétchènes, des femmes somaliennes, mais aussi des femmes allemandes qui ont pour projet de faire quelque chose ensemble. Donc elles ont décidé de faire la cuisine ensemble.
Bon appétit. Bon appétit. Das auch? Nein, nur das?
Also die Kriegserinnerungen, die die Flüchtlinge erzählen oder die ich im Fernsehen sehe.
Les souvenirs de guerre que j'entends les réfugiés raconter ou que je vois à la télévision sont identiques à mes souvenirs.
Manchmal denke ich, ist es heute noch grausamer als damals.
Je pense qu'aujourd'hui, la guerre est peut-être encore plus atroce, mais au niveau des effets que cela provoque, les traumatismes sont les mêmes. Je reconnais les pertes, ce sont des pertes matérielles, du chez-soi, de nos affaires.
Man verliert die Verbindungen zu Freunden und Verwandten.
Mais aussi les pertes des proches. Les parents, les amis que nous perdons. Et dans ce sens-là, c'est tout à fait ce que j'ai vécu aussi à l'époque.
La voix de Wilfried Sering dans la Marche du Monde, dans les oreilles de l'historien Johann Chapoutot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université Paris-Sorbonne, spécialiste du nazisme, et vous vous êtes intéressé à l'attitude de l'Allemagne face à ses réfugiés, notamment dans un article paru dans le magazine L'Histoire. C'était en octobre 2016. Alors, Yoann Chapoutot, pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet et qu'est-ce qui vous frappe dans l'attitude des Allemands face aux réfugiés?
En amont de cet article et indépendamment de ce sujet de recherche qu'est le nazisme, je m'intéresse à l'histoire contemporaine de l'Allemagne. J'avais publié au PUF, une histoire de l'Allemagne contemporaine, 19e, 20e, et j'ai pu à nouveau vérifier ce que je savais déjà, c'est que l'histoire de l'Allemagne au 19e, au 20e siècle, l'histoire contemporaine, est une histoire de brassage de population incroyable. De fortes émigrations au 19e siècle, plus de 5 millions d'Allemands quittent l'Allemagne, les territoires allemands au 19e siècle, essentiellement vers les Amériques, latines et Amérique du Nord. Et au 20e siècle, c'est une histoire d'immigration et d'immigration forcée, avec notamment cet épisode particulier que constitue le grand rapatriement des déplacés de guerre entre 1945 et 1947. 12 millions de personnes. 12 millions de personnes intègrent ou réintègrent les frontières de ce qu'on appelle le Altreich, dans les frontières de l'Allemagne de 1937.
Ce qui est extrêmement intéressant, Yoann Chapoutot, c'est que d'emblée, en tant qu'historien, vous rappelez que cette histoire de la crise migratoire, elle est extrêmement longue, elle n'a pas surgi en 2015, et que les Européens eux-mêmes ont été des migrants, notamment au 19e, vous parlez du départ des Allemands pour les Amériques, c'était le cas aussi des Français, de tous ceux qui fuyaient la misère et les guerres à l'époque.
Oui, et ce qui est très intéressant, c'est qu'au 19e siècle, au moment où les Allemands combattent la France qui occupe la Prusse, les armées de la Révolution puis de l'Empire, se crée un discours sur l'identité allemande, un discours sur l'histoire allemande qui est un discours totalement mythique, qui est celui de Fichte et de ses contemporains, qui consiste à dire tous les autres sont des migrants, tous les autres sont des immigrés, nous sommes restés sur notre sol depuis la plus lointaine antiquité. Nous sommes le peuple authentique, nous sommes le peuple qui est semblable à lui-même. C'est une vaste blague. Déjà, les Allemands nationalistes argumentent sur la langue allemande qui serait restée intacte depuis Néandertal, alors que c'est une langue structurée grammaticalement par le grec et ensuite sémantiquement par l'allemand. C'est une langue inventée au XVIe siècle par Luther. Bon, déjà, c'est une langue métissée. Et puis pour ce qui est des populations, c'est un brassage de populations, ne serait-ce qu'au XVIIe siècle avec la guerre de 30 ans, perte de population immense due à la guerre, immigration, brassage. Donc c'est un pays qui a construit, si vous voulez, le mythe identitaire de sa pureté ou de son authenticité originelle, alors que c'est un pays brassé et métissé culturellement et au point de vue démographique.
Un mythe qui séduit d'ailleurs nombre d'extrémistes en Europe, mais comme quoi l'histoire montre que la grande histoire de l'immigration est fort différente. Je vous propose de retrouver Wilfried Sering. Il a grandi dans le petit village de Kunnersdorf, sur la propriété de son grand-père. Et ce village de Kunnersdorf était à l'époque situé en Allemagne, mais il est actuellement en Pologne. Et il s'appelle Kunowitz, près de la frontière avec l'Allemagne. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, lors de l'avancée de l'armée soviétique, Wilfried Sering et sa famille ont dû fuir la violence de la guerre.
Meine erste Flucht war 1945. Wir sind im Winter.
Ma première fuite a eu lieu en 1945, le 1er février. En fait, on a fui depuis notre petit village de campagne en pensant se réfugier dans la grande ville. Il faisait froid, c'était sombre, c'était une journée d'hiver très froide. Et on entendait les avions et les chars russes.
Einmal kamen die deutschen Panzer entgegen.
Nous étions donc sur les routes et parfois les chars allemands passaient.
Ich war damals 9 Jahre alt.
J'avais 9 ans à cette époque et c'est là que j'ai vu la première fois une personne morte.
Älterer Mann kam nicht schnell weg, er wurde einfach überrollt.
On devait se mettre sur le côté du chemin et un homme âgé n'est pas allé assez vite et il s'est fait écraser par un char allemand.
Wir wussten nicht ganz genau, ob wir nach Frankfurt oder
Notre but était d'arriver à Francfort sur l'Oder.
Ce
qui s'est révélé très vite être une déception puisque la ville de Francfort Oder a été bombardée et les femmes et les enfants ont dû être évacués.
Und wir mussten dann mit dem Zug, ja, wohin?
Mais on ne savait pas où aller, on n'avait pas d'autres familles à l'ouest, en Allemagne. Et donc on a été mis dans un train et envoyé dans les Sudètes, un territoire qui à l'époque appartenait aussi encore à l'Allemagne.
Und dort lebten wir dann 1945.
C'était en 1945, nous vivions dans la ville qui s'appelle Mies. Et la première impression, c'est qu'on a retrouvé enfin la paix. Il n'y avait pas de signe de guerre. J'ai même été à l'époque réinscrit à l'école. Je devais retourner au lycée. Mais ça n'a pas duré longtemps non plus, puisque le 8 mai, l'armée américaine a pris d'assaut la ville et l'a occupée.
Und wir waren zwar wohlbehalten, aber sehr bald kamen ja die Tschechen zurück.
Es war eine, es ils nous ont pas fait de mal, mais très vite, en fait, les Tschèques sont revenus et le président Benetsch a mis des lois contre les Allemands, notamment il fallait nous reconnaître. Donc on portait des brassards blancs ou jaunes autour du bras et on n'avait pas le droit de parler l'allemand à l'extérieur, dans la rue.
Und wir kamen in Baracken.
On a été parqués dans des baraques. Tous les Allemands devaient vivre là. On n'avait plus le droit d'aller à l'école.
Gewissermaßen in quarantaine.
Finalement, on était mis en quarantaine.
Il est aujourd'hui le président de la République le moins discuté, le plus populaire du monde. Et ce mandat qu'il tient vraiment de la souveraineté populaire faisait dès longtemps avant la guerre de la Tchécoslovaquie un des peuples les plus évolués du monde. Le président Benetsch a bien voulu accepter de me recevoir et de s'adresser par mon intermédiaire aux auditeurs de France.
La décision sur le sort des Allemands en Bohême nous est dictée par les considérations d'ordre moral. En 1938, au moment du danger mortel pour nous, quand Hitler a fait l'attaque contre nous pour détruire notre patrie, ils se sont joints à lui pour nous abattre. Après la guerre perdue, ils doivent partir en Allemagne. Nous ne pouvons pas vivre en commun avec eux. La conférence de Potsdam a accepté cette décision. Le transfert doit se faire d'une manière organisée et humaine et d'accord avec les grands alliés.
Eines Tages 1946 kam Lautsprecherwagen.
Un jour en 1946, il y a eu une annonce dans les haut-parleurs selon laquelle tous les Allemands devaient quitter le pays. On avait 30 minutes pour faire nos paquets, prendre nos affaires et on devait aller à la gare ferroviaire, mais pour les marchandises.
Ich hatte eine Schatzkiste und da waren so verschiedene.
Je me souviens que j'avais une petite boîte de trésors, un petit coffre avec mes petites choses qui m'étaient importantes, et je l'avais cachée sous mon lit. Et lorsqu'on a dû fuir, on avait tellement peu de temps que ma mère me disait « Allez, allez, dépêchez-vous, parce que si on traîne trop, on va se faire fusiller. » Et avec cette peur, j'ai oublié ma petite malle au trésor, et je m'en souviens. Je me souviens encore aujourd'hui de l'impression d'avoir oublié quelque chose, d'avoir laissé derrière moi quelque chose. Aujourd'hui, dans ma famille, on plaisante, ils disent que c'est pour ça que je collectionne tellement, parce que j'ai tellement perdu en fait au cours de ma vie.
Tiens, t'as l'air d'y tenir. Si tu continues à te battre, à tenir ta vie serrée dans ton poing, comme ça, tu vas t'en sortir.
Vous écoutez La Marche du Monde et le témoignage de Wilfried Sering, expulsé des Sudètes pendant l'été 1946. Il avait 11 ans à l'époque et il se souvient du voyage en train qu'il a conduit avec sa famille jusqu'en Allemagne.
Und man sollte sich auf der Straße sammeln und dann zum Güterbahnhof.
Ensuite, on nous a fait monter dans des wagons. On ne savait pas
où on allait être transporté, mais peu à peu, une rumeur s'est répandue comme quoi on allait retourner en Allemagne.
Wir fuhren lange Zeit, wir wussten ja nicht wohin, und als es abends ungefähr 23 Uhr,
la route a été très longue et on est arrivé dans un lieu qui nous est inconnu. Je me souviens des portes qui crissaient lorsqu'elles s'ouvraient et on s'est retrouvé à l'extérieur et on a entendu des voix qui parlaient en allemand.
Wir sind dann 47 nach Frankfurt-Oder zurück. Wir dachten ja, wir kommen wieder.
Et l'année suivante, en 1947, nous sommes parvenus avec ma famille à retourner à Francfort sur l'Oder.
Wir wussten nichts von Potsdamer Abkommen und Jalta-Abkommen.
En fait, ce que nous voulions, c'était de retourner sur le terrain, enfin, la propriété de mon grand-père, donc à l'est du fleuve Oder. On ne savait rien à l'époque des traités, le traité de Potsdam. On ne savait pas ce qui avait été convenu. On pensait qu'on allait pouvoir y retourner, mais finalement, on a dû rester dans la ville de Francfort sur l'Oder, qui était totalement détruite.
Man musste sich arrangieren, aber das mussten so viele.
On a dû se débrouiller, on a trouvé une façon, et c'était partout pareil à l'époque. En fait, on a réussi à retrouver une vie dans cette situation complètement anormale.
Ja, die Normalität, der geregelte Tagesablauf.
Ce qui était très important surtout, c'était de retrouver une forme de normalité, d'avoir des voisins, d'être bien perçu par les voisins, d'avoir des chemins qu'on prenait tous les jours, des petites routines en fait, et puis de plus être soumis à ces règles particulières, notamment les couvre-feux. En fait, on est redevenu des civils, une population civile qui avait les mêmes droits que les autres. C'était ça qui était important.
Redevenir des civils comme les autres, c'était ça qui était important. C'est le témoignage de Wilfried Sering dans La Marche du Monde, au micro de Philippine Lebré. Sa famille allemande a été obligée de fuir à plusieurs reprises en 1945 et 1946 devant l'avancée de l'armée russe. Une situation totalement chaotique et désorganisée où la population était obligée de partir à pied. Johann Chapoutau, un épisode de l'histoire allemande que vous connaissez bien. Un petit mot quand même pour ce contexte, pour les Allemands à l'époque. Alors évidemment, la situation difficile des Allemands, c'est presque un sujet tabou pendant cette Seconde Guerre mondiale, où ce que l'on retient dans la mémoire collective, évidemment, ce sont surtout les exactions des Allemands, l'extermination des Juifs et donc la soumission et la collaboration du peuple allemand à ce grand génocide du XXe siècle. Mais là, le sujet aujourd'hui, ce sont ces Allemands qui eux-mêmes sont victimes de la situation de la guerre. Est-ce que les autorités allemandes de l'époque avaient anticipé pour permettre à leurs ressortissants de fuir cette armée russe?
Alors non, ils l'ont d'autant moins organisé que les autorités nazies se réfugient dans un déni total de la réalité. Par exemple, pour ce qui est de la Prusse orientale, à l'extrême est, l'ordre d'évacuation n'est donné qu'en janvier 1945, alors qu'il aurait fallu le donner à l'été précédent, à l'été 1944. Donc on se retrouve avec des populations civiles dans un état d'extrême dénuement et d'extrême faiblesse, alors que ces mêmes autorités allemandes qui ont refusé de donner l'ordre d'évacuation se sont elles-mêmes évacuées à temps pour pouvoir se réfugier à l'ouest le plus vite possible, l'essentiel étant d'échapper à l'armée rouge pour arriver au mieux dans le Reich et au pire, mais c'est tout de même mieux que l'armée rouge, dans les mains des alliés à l'ouest.
Wilfried Sering précise, nous ne savions rien des traités, il évoque notamment le traité de Potsdam. Alors pourquoi Wilfried Sering et sa famille justement ne pouvaient-ils plus retourner chez eux?
Ce qui se passe en 1945, c'est que les Allemands sont considérés de manière globale comme responsables de la guerre et coupables. Et les Allemands sont considérés non pas comme une urgence humanitaire, mais comme une population à traiter en ennemi. Une des leçons qui est tirée de la guerre, c'est que le problème des minorités qui est né du traité de Versailles, au moment où on crée des États-nations nouveaux sur les ruines des empires d'anciens régimes, ce problème des minorités est une des origines de la guerre, puisque Hitler a avancé cet argument pour démanteler la Tchécoslovaquie en 1938-39 et pour attaquer la Pologne en 1939. Donc l'idée, c'est que les États qui vont se recréer, la Pologne et la Tchécoslovaquie, mais aussi la Roumanie, vont évacuer leurs minorités allemandes pour éviter toute guerre à l'avenir. C'est d'une cruauté terrible et d'une injustice totale pour ces populations civiles, notamment pour des gamins de 9 ans. Là, le témoignage est poignant. Il parle de sa petite boîte au trésor qu'il a perdue, qu'il a égarée. Il parle ensuite de sa compulsion de collectionneur pour essayer de rassembler une identité et pour la reconstruire tout au long de sa vie. C'est très poignant. C'est un gamin de 9 ans qui ne comprend rien, qui n'y est pour rien et qui subit de plein fouet les conséquences très injustes pour lui de cette guerre, la perte d'un foyer, la perte d'une terre.
C'est la suite de votre émission consacrée cette semaine aux femmes et aux hommes engagés dans l'accueil des réfugiés en Europe.
Je pense qu'il existe un récit universel de cette expérience de l'exil. Ce que vivent les gens qui doivent quitter leur maison de force à cause de la guerre ou de la violence, c'est quelque chose d'universel. Les questions sont toujours les mêmes. Que prendre avec soi quand on doit quitter sa maison de force? Comment entretenir le souvenir de son chez-soi quand on sait qu'on ne pourra plus jamais y retourner? Parfois, si vous ne donnez pas de source et que vous citez simplement le récit d'un réfugié ou d'un expulsé venu de Syrie, d'Afghanistan ou de Prusse orientale, parfois on ne peut pas faire la différence.
Because it's about the experience of violence, of rape, afterwards of homesickness.
Ces récits parlent tous de violence, de viol, de mal du pays, de crise identitaire, parfois de la vie dans un camp et de l'inquiétude de ne pas savoir ce qui vient après.
That is a universal experience, and I think many, many million Germans.
L'exil est une expérience universelle et beaucoup d'Allemands ont vécu cette expérience. Je pense donc qu'il y a dans la culture allemande une image claire de ce que cela signifie de perdre son foyer. Bien sûr, il existe beaucoup de différences entre l'expérience des Allemands après la Seconde Guerre mondiale et celle des réfugiés d'aujourd'hui.
Historien allemand, fils et petit-fils de réfugiés, Andreas Kossert pose la question de ce que signifie perdre son foyer. Une question que je vous pose à mon tour. Johann Chapoutou, vous nous accompagnez tout au long de ces témoignages recueillis par Philippine Lebret dans différentes régions de l'Allemagne, des Allemands qui bénévolement aujourd'hui font face localement à la crise migratoire. Qu'est-ce que cela signifie que de perdre son foyer ?
Anthropologiquement, ça signifie beaucoup. C'est un lien à l'identité, à la filiation qui se défait. Et dans la culture allemande, singulièrement, dans le long terme de la culture allemande, perdre sa Heimat, c'est perdre d'autant plus son identité que dans d'autres régions du monde.
Le nombre d'Allemands concernés par cette expérience de l'exil dans l'histoire récente, 44-46, puis la période communiste, vous l'évalueriez à combien? Parce que ce qui a été très frappant pour Philippine Lebret tout au long de cette enquête en Allemagne, c'est qu'à tout moment, les gens lui disaient « Mais vous travaillez sur quoi? Vous faites quoi ?»« Ah oui, mais moi aussi, dans ma famille, mon grand-père. » On a le sentiment que cette mémoire collective est extrêmement présente. En réalité, ça a concerné combien de personnes?
On peut risquer une estimation 12 millions après 1945, dans le mouvement de ce qu'on appelle les Kriegsvertriebene, c'est-à-dire les déplacés de guerre, les déplacés forcés de la guerre et de l'immédiate après-guerre, et ajouter à cela 3 à 4 millions pour ce qui concerne la RDA, de 1949 jusqu'à 1990.
Donc c'est une histoire qui irrigue la mémoire collective allemande.
Dont on peut dire qu'elle touche chaque famille allemande.
Nous avons entendu l'engagement tout à l'heure de Wilfried de Sering, lui-même réfugié plusieurs fois dans sa vie. Il vient en aide aux réfugiés dans son village, mais cette relation causale n'est pas toujours aussi directe. Pour d'autres, c'est une connexion plus intime, sentimentale même, qui prédomine. C'est le cas de Gunnar Tausch, architecte de 47 ans. Il est né à Chemnitz, qui s'appelait à l'époque Karl Marx Stadt, dans l'ancienne RDA. Il a donc fui la RDA avec ses parents. Il n'avait que 5 ans.
Es ist auch nicht so, dass meine Eltern mich frühzeitig in die Fluchtpläne eingeweiht hätten.
Mes parents ne m'avaient pas du tout informé de leur projet de quitter l'Est. On m'a simplement dit qu'on partait en vacances et qu'il fallait que je prenne mes nounours auxquels je tenais.
Die Flucht begann mit einer Zugreise nach Ungarn.
Notre fuite débuta avec un voyage en train vers la Hongrie.
In Budapest waren wir dann mehrere Tage in einem Hotel, zwei oder drei.
À Budapest, nous sommes restés quelques jours dans un hôtel.
Und da ist eigentlich auch meine wichtigste oder eine meiner entscheidenden.
Et c'est effectivement là que le souvenir de notre fuite le plus important pour moi a eu lieu, puisque c'est à Budapest que j'ai appris à faire du vélo dans un parc durant cette fuite.
Und dann in Budapest hat dann eigentlich so eine Fluchthelferorganisation.
Puis à Budapest, c'est une association pour des personnes qui souhaitaient fuir, qui a pris en main l'organisation du reste du voyage. Le moment le plus dramatique de notre fuite a été le passage finalement entre la Hongrie et l'ancienne Yougoslavie.
Und der Grenzübertritt war dann ganz konkret so, dass wir mit einem Auto.
On a été conduit en voiture jusqu'à un point très près de la frontière, puis nous sommes montés dans un camion pour passer la frontière.
Und wir waren dann aber nicht die einzigen, die in dem LKW waren.
Nous n'étions pas seuls dans ce camion, en fait, il y avait un groupe assez grand de personnes.
Denn diese Fluchthelferorganisation.
Car l'association d'aide à la fuite qui organisait ces voyages essayait de profiter de chaque prise de risque pour faire passer un maximum de personnes, donc pour libérer ces personnes, mais aussi pour que ces voyages soient rentables.
Und die Leute, die dort drin waren, waren nicht begeistert, dass da jetzt ein Kind dazu kommt.
Les personnes qui étaient déjà à l'intérieur du camion n'ont pas été très contentes de voir qu'un enfant, et surtout un enfant relativement jeune, monte à bord.
Weil natürlich klar war, dass wenn das Kind an der Grenze.
Parce que évidemment, au passage à la frontière, il y avait plus de chances qu'un enfant fasse un cri ou un bruit qui trahirait tout le monde.
Und die Lösung war dann, dass ich eine Schlaftablette bekommen sollte.
La solution qui a été trouvée ou négociée, c'est que l'on me donne un somnifère. Et effectivement, je me suis très vite endormie.
Nur ich bin prompt just im dramatischsten Moment aufgewacht.
Mais il se trouve que je me suis réveillée au moment le plus dramatique de ce voyage, puisqu'apparemment, c'est exactement au moment où nous avons passé la frontière que je me suis réveillée, donc j'ai ouvert les yeux. Dieu merci, je n'ai rien dit, je suis restée tout à fait silencieuse, donc mes parents me faisaient des signes pour que surtout je ne dise pas un mot, que je ne fasse pas un bruit, et c'est ce que j'ai fait.
Jugoslawien war die Sache aber noch nicht ganz zu Ende, weil Jugoslawien.
En Yougoslavie, ce n'était pas du tout fini pour nous. Il fallait qu'on traverse encore cette frontière qu'on appelait la frontière verte vers l'Autriche.
Es war dann so, dass der Freund von meinem Vater.
L'ami de mon père qui avait déjà fui auparavant nous a conduit dans son petit bus Volkswagen près de la frontière autrichienne.
Wir dann aussteigen mussten vor dem Grenzübertritt.
Nous avons traversé la forêt à pied et lorsqu'on sortait de l'autre côté de la forêt, on était en Autriche et c'est là qu'il nous a récupérés.
Ja, meine Eltern
Pour
mes parents, qui étaient encore assez jeunes au moment de la fuite, je pense qu'on peut dire qu'il s'agissait de peurs traumatiques. Et durant plusieurs années, ils ont eu des rêves, des cauchemars qui sont revenus, alors peut-être une ou deux fois par an, où ils rêvaient de cette fuite.
La voix de Gunnar Tausch dans La Marche du Monde, aujourd'hui architecte de 47 ans, hier petit garçon pris dans la grande histoire, Johann Chapoutot, des récits de l'exil, des récits de passage de frontières, des récits à hauteur d'enfant, mais qui néanmoins résonnent incroyablement avec les récits aujourd'hui que nous livrent les réfugiés pris dans cette crise migratoire.
Oui, il y a 2 ans, le monde avait été bouleversé par l'image d'un enfant rejeté sur une plage par les ressacs de la mer, également par le ressac de l'histoire, tout simplement. On a là affaire à des gamins qui sont des fétus de paille dans le grand courant, dans le grand flot de l'histoire. C'est très émouvant d'entendre ces histoires d'enfants, ces histoires d'enfance, d'enfance brisée ou coupée de quelque chose par un événement qui leur échappe, en l'occurrence le fait de fuir une dictature ici, ou auparavant le fait d'être chassé de chez soi.
Alors là, c'est une double mémoire en ce qui concerne l'Allemagne, donc la mémoire d'un pays qui n'existe plus, la RDA, et qu'on fuyait, qui à l'époque faisait partie de ce qu'on appelle le bloc de l'Est, et puis ce passage vers l'Allemagne de l'Ouest, avec cette peur traumatique que les parents ont conservée. Quel accueil de ces Allemands de l'Est à l'époque, à l'Ouest ?
Un accueil plutôt favorable, avec une intégration plutôt réussie dans une société qui connaissait une situation économique favorable. Ensuite, pour ce qui est de 1989-90, ça a été un moment d'euphorie pour tout le monde.
Réunification de l'Allemagne. Et d'ailleurs, Merkel, elle est le fruit de cette réunification.
Absolument. Et d'ailleurs, on peut penser qu'à titre personnel, l'expérience qu'a eue Angela Merkel une forme d'emprisonnement, ce qu'elle décrit elle-même comme étant un emprisonnement à l'Est, a joué dans sa politique à l'égard des réfugiés. Elle a dit elle-même « J'ai trop vécu derrière des grillages pour laisser d'autres gens vivre ainsi ».
Merkel, elle, n'a pas fui, l'ex-RDA. En revanche, elle est venue faire sa carrière politique en Allemagne de l'Ouest, suite à la chute du mur en 1989. Alors, cette façon dont la mémoire traverse les générations et se perpétue, Andreas Kossert l'incarne. Il n'a jamais été réfugié, mais ses parents et ses grands-parents sont arrivés en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale en tant que réfugié. Il venait de l'actuelle Pologne, la famille de sa mère de Mazurie et celle de son père de Lodz, où les deux familles vivaient depuis plusieurs générations.
As a child, I was always very close to my grandparents.
Quand j'étais enfant, j'étais très proche de mes grands-parents.
And they always said in German,
ils disaient souvent en allemand,
bei uns zu Hause.
Quand nous étions chez nous.
And all my grandparents, as many other refugees, always referred to home.
Et tous mes grands-parents, comme de nombreux réfugiés, ne parlaient pas de l'endroit où ils habitaient quand ils disaient « chez nous ». Ils parlaient de quelque chose auquel on n'avait pas accès. C'était leur monde, leur espace personnel pour faire leur deuil. C'était parfois triste. Par exemple, à Noël, je me souviens que mon grand-père disait
« In West Germany, this is not a proper Christmas. They don't even have snow. »
En Allemagne de l'Ouest, il n'y a pas de vrai Noël. Il n'y a même pas de neige.
And we went with the sleighs to church.
Il racontait que quand il était enfant, il allait en traîneau à l'église pour Noël. Et moi, qui étais enfant, je me disais,
we can't even do proper Christmas here,
mais on ne peut pas faire de vrai Noël ici.
And there were only a few black and white photographs which survived.
Il ne restait que quelques photos en noir et blanc. Donc, quand ils parlaient de leur ancien foyer, il n'existait pour nous qu'en noir et blanc.
It sounded for us like being in a different century.
Ça nous donnait l'impression d'être dans un autre siècle.
My grandmother with my father and his brother, my uncle, they were imprisoned in a Soviet camp.
Ma grand-mère paternelle a été emprisonnée dans un camp soviétique avec mon père et mon oncle.
And my grandmother had to do forced labor.
Elle devait travailler de force pour les soviétiques.
And they were in the camp for 1.5 years.
Ils sont restés dans le camp pendant un an et demi, jusqu'à la fin de l'année 1946.
But with my grandmother's linguistic skills, fluent in Russian and in Polish, somehow she.
Mais grâce aux compétences linguistiques de ma grand-mère, qui parlait couramment russe et polonais, ils ont réussi à s'échapper.
With the help of Soviet officers.
Des soldats soviétiques les ont aidés dans leur fuite. Ils ont pu faire une grande partie de la route sur un camion militaire. Mais parfois, ils devaient marcher ou prendre des trains. Cette fuite leur a pris des mois et des mois sur plusieurs centaines de kilomètres. Ils ne pouvaient marcher que la nuit car ils s'étaient échappés du camp. Ils avaient très peur d'être rattrapés.
Somehow she managed to get into the Soviet occupied part of Germany.
Finalement, ma grand-mère a réussi à atteindre la partie soviétique de l'Allemagne, et c'est là qu'elle a retrouvé la trace de mon grand-père.
He was just released from the as a prisoner of war.
Il avait été prisonnier de guerre et venait d'être libéré.
He was working at a West German farmer's.
Il travaillait chez un fermier en Allemagne de l'Ouest et ils ont été réunis en 1947 en Basse-Saxe à Göttingen.
My mother's side actually went on this, let's say, in inverted commas, classic flight.
Du côté de ma mère, la fuite a été, disons, plus classique, puisqu'ils ont fui l'avancée des troupes soviétiques.
My grandmother left with her two girls, my mother and my aunt.
Ma grand-mère est partie avec ses deux filles, ma mère et ma tante, le 21 janvier 1945.
It was a Sunday.
C'était un dimanche.
Mother was just about 1 year old.
Ma mère avait tout juste un an et ma tante, sa sœur, en avait trois.
It was minus 20.
Il faisait moins 20 degrés quand elles sont parties.
And the Russians advanced so quickly.
Et les Russes avançaient tellement vite qu'il n'y avait plus qu'une petite bande de terre sur laquelle elles pouvaient encore fuir. C'était le long de la mer Baltique.
And so they had to cross frozen ice, and so they had to go over the frozen water.
Elles ont dû marcher sur cette étendue d'eau gelée. C'était très dangereux car la glace était très fine.
So many civilians actually died, and also
beaucoup de civils sont morts. D'autant que les réfugiés étaient régulièrement bombardés par l'aviation soviétique.
But they reached the direct Baltic coast.
Mais ma mère et sa famille ont réussi à atteindre la côte baltique.
And then were shipped.
Et là, elles ont pu monter dans un bateau pour Gotenhafen, le nom allemand de la ville de Gdynia, près de Danzig.
And then they were reshipped on another boat.
Ensuite, elles ont pris un autre bateau qui les a amenés sur l'île de Rügen, au large de la côte nord de l'Allemagne, puis sont arrivées dans la région de Schleswig-Holstein, tout au nord de l'Allemagne.
Where they actually also saw the end of the Second World War.
C'est là qu'elles ont vécu la fin de la guerre.
And as many other million German refugees,
comme des millions d'autres réfugiés allemands, elles ont été hébergées par des habitants car elles n'avaient pas d'abri, nulle part où habiter.
And local communities had to open their houses to.
À l'époque, les communautés locales avaient l'obligation d'ouvrir leurs maisons et de prodiguer un abri aux réfugiés.
Et vos parents, comment est-ce qu'ils vous parlaient, eux, de l'Est, de leur fuite et de leur expérience de réfugiés?
They were very typical in the way that they hardly wanted to talk about it.
Mes parents ne voulaient presque jamais en parler. Ils nous disaient oui, nous venons de là-bas, point final.
This generation which is still alive.
La génération de mes parents, ces gens qui sont toujours en vie, qui ont aujourd'hui entre 70 et 80 ans et qui sont arrivés ici dans leur enfance, ils ont été confrontés à un défi très complexe.
Because they were not socialized fully yet in the old home.
Ils n'avaient pas eu le temps de développer des liens avec leur pays d'origine. Mais ils étaient quand même suffisamment différents pour ne pas s'intégrer pleinement dans la société ouest-allemande.
They were regarded as Polaks, which was a very.
Mes parents étaient appelés Polak, un mot très péjoratif pour désigner les Polonais. Et les autres enfants étaient souvent hostiles quand ils jouaient avec eux.
And they were bullied very often as Polaks.
Ils les harcelaient et les traitaient de Polak.
And the children were somehow really stuck in this very emotional battle about identity.
Les enfants réfugiés étaient en quelque sorte coincés dans cette bataille identitaire très émotionnelle.
Johann Chapoutot, j'aimerais que vous puissiez réagir à la continuité donc de ce témoignage d'Andreas Kossert. Au fond, est-ce que ça a été un fardeau ou une chance pour l'Allemagne d'après-guerre de devoir accueillir ces 12 millions de personnes?
Ça a été un fardeau terrible dans un premier temps, parce qu'il faut imaginer un pays en ruine, hein, littéralement en ruine pour la quasi-totalité de ses plus grandes métropoles, parfois détruites jusqu'à 75-80%.
On l'oublie parfois, hein, cette éradication des villes allemandes, hein, évidemment Berlin, mais pas seulement Berlin.
Pas seulement, Hambourg, Dresde, Leipzig, Mannheim... sont des villes très très touchées, Nuremberg évidemment. Donc ça a été un fardeau que d'accueillir 12 millions de personnes supplémentaires dans un premier temps, dans l'état de désorganisation totale, hein, de ce pays qui n'était plus un pays. Mais cela dit... ces 12 millions ont permis de compenser des pertes humaines terribles, hein. Les 5 millions de morts hommes de la guerre, hein. 5 millions de soldats allemands et de mobilisés allemands sont morts, et les 12 millions d'Allemands qui arrivent sont autant de bras bienvenus et nécessaires, tout simplement pour reconstruire l'Allemagne et participer à ce que de manière abusive on appelle le miracle économique allemand à partir du début des années 50, mais qui n'est qu'en fait un phénomène que l'on connaît dans d'autres pays de rattrapage économique, accentué dans le cas allemand par la reconstruction du pays.
Donc vous diriez au fond que ces 12 millions de réfugiés ont participé non seulement à la transformation, mais aussi à la modernisation et à la relève de l'Allemagne.
Absolument, et c'est une des raisons aussi qui pèse dans la politique actuelle de la chancelière Merkel, parce qu'il y a des considérations réelles politiciennes, économiques, très... pratique et très terre à terre, hein, dans l'accueil des réfugiés. L'Allemagne est un pays qui est en déprise démographique, hein, qui est en récession démographique, et le patronat allemand a lourdement pesé sur la politique du gouvernement de grande coalition dominé par la droite, hein, par la chancelière Merkel, pour qu'on accueille des bras supplémentaires par centaines de milliers, voire par millions.
Il s'agit à ce jour du plus important programme d'accueil de Syriens en Europe, mais plusieurs associations appellent les autorités à en faire plus.
Il faut voir qu'il y a 2 millions de réfugiés qui ont traversé les frontières, rappelle cette représentante d'Amnesty International. De plus, il y a 4 millions de déplacés à l'intérieur de la Syrie qui ont également perdu leur maison. On ne peut que souhaiter que l'Allemagne élargisse son programme et surtout que l'Europe participe de manière beaucoup plus importante.
Meine Eltern, die sehen schon auch vorrangig einfach die...
Mes parents, ce qu'ils voient en premier plan, c'est la notion d'urgence qui leur est familière. Et je sais par exemple que mon père est toujours très choqué lorsqu'on entend aux informations parler des personnes qui aident à fuir, qu'il s'agit forcément de criminels. Pour lui, bien évidemment, il y en a parmi eux qui sont criminels, mais il y a aussi des personnes qui s'engagent pour aider des gens à fuir des zones de conflit.
Fort de cette mémoire familiale, Gunnar Tausch est particulièrement sensible aux prises de position politique des autorités allemandes.
Was mir eigentlich am besten gefallen hat, war diese Aussage von ihr.
Ce qui m'a le plus plu, c'est la déclaration de la chancelière lorsqu'elle a dit que Aussage, si on ne peut pas accueillir ces réfugiés, alors ce n'est Land. Pas mon pays.
Aber es war zumindest eine sehr emotionale und auch persönliche Aussage.
Ça a été une déclaration que j'ai perçue comme très émotionnelle et aussi positiv, très personnelle de la part d'Angela Merkel.
Les images qui ont fait le tour du monde, c'était les images des citoyennes et des citoyens allemands qui ont accueilli des personnes à Munich et dans d'autres gares. Qui ont tout simplement aidé par milliers. Et alors le monde a dit, voilà un beau geste. Et ce geste venait du cœur de nos concitoyens. Et je dois vous le dire, si nous devons maintenant nous excuser d'avoir montré un visage bienveillant dans des situations de détresse, alors ce pays n'est pas le mien.
Les mots de la chancelière Angela Merkel dans la Marche du Monde. Nous sommes en septembre 2015. Johann Chapoutot, revenons, si vous le voulez bien, sur cette déclaration très forte de Merkel lorsqu'elle a dit « Alors, ce pays n'est pas le mien ». Comment vous, historien, vous l'entendez ?
C'était une parole très courageuse hein, de la part d'Angela Merkel parce qu'elle prenait à rebrousse-poil toute une conception de l'Allemagne à l'extérieur de l'Allemagne et en Allemagne même, selon laquelle l'Allemagne serait un pays du droit du sang et non pas du droit du sol, un pays authentique et non pas mélangé, un pays stable et non pas métissé. Elle a pris ce stéréotype-là à rebours de manière très courageuse et d'autant plus courageuse qu'elle appartient à une famille politique qui n'est pas spécialement portée à l'ouverture vers l'étranger, hein, la CDU, par ailleurs flanquée de la CSU, hein, le chrétien sociaux bavarois, qui ont une culture politique très fermée, très particulariste, et assez opposée à l'immigration, et notamment à l'immigration de masse. Donc ça a été très courageux de la part d'Angela Merkel. Elle a tout simplement acté une réalité historique, un fait social contemporain que l'on trouve d'ailleurs illustré par la composition actuelle de l'équipe nationale allemande, hein, depuis la victoire en 2014, la victoire à la Coupe du Monde des footballeurs allemands. On a bien vu que c'était une équipe métissée, hein, reflet d'une société elle-même métissée. Elle a acté tout cela et elle l'a hissé jusqu'au discours politique et jusqu'à la parole du pouvoir. Et pour cela, elle doit être évidemment félicitée.
Alors si l'on se détache un tout petit peu des turpitudes politiques de l'Allemagne et des revers politiques aussi que subit Merkel, y compris parce qu'elle s'est engagée sur ce dossier des réfugiés, je dirais que si l'on regarde l'histoire longue, est-ce qu'on pourrait imaginer que Merkel restera dans l'histoire parce qu'elle a accueilli 1 million de réfugiés en Allemagne ?
Il restera évidemment de plusieurs mandats que Angela Merkel aura effectué comme chancelière, il restera ce fait-là. C'est quelqu'un qui est reconnu pour sa plasticité, son pragmatisme, très côteleux, mais pas pour son courage politique. Aucune grande réforme, aucune grande initiative, que ce soit au niveau européen, international ou intérieur, n'est associée au nom d'Angela Merkel. Elle est une politicienne de la résilience et de la survivance politique, mais certainement pas de l'action et de l'innovation ou de l'initiative. C'est donc l'accueil des réfugiés qui restera associé à son nom dans l'histoire.
Merci Johann Chapoutot de nous avoir éclairé sur cette longue histoire des crises migratoires à l'écoute des témoignages de ces réfugiés allemands qui à leur tour accueillent les migrants depuis 2015 au cœur de l'Europe.
Einmal bin ich mit zwei Syrern durch Berlin gefahren.
Une fois, j'ai pris avec moi 2 Syriens et on a traversé Berlin parce que je voulais leur montrer la ville et surtout j'avais pris aussi une photo qui datait de 1946 où on voyait à quel point la ville avait été détruite et on s'est rendu exactement à l'endroit où cette photo a été prise et je leur ai montré la photo et je leur ai montré l'endroit et je leur ai dit regardez ça c'était comme ça en 46.
Sie haben große Augen gemacht und konnten es nicht glauben.
Et là ils ont fait des gros yeux, ils étaient totalement étonnés de voir que l'Allemagne s'était relevée, l'Allemagne avait reconstruit après tous ces bombardements.
Und dann habe ich zu ihm gesagt und so wird es auch in Syrien.
Et je leur ai dit à ce moment-là, vous voyez, en Syrie, ça va être pareil, vous allez aussi reconstruire.
Also vielleicht kann man sagen, sie haben glücklich gelächelt.
Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai cru apercevoir un petit sourire qui montrait de leur espoir.
Les témoignages de Wilfried Sering, Gunnar Tausch et Andreas Kossert ont été recueillis par Philippine Lebré et traduits par Marlène Goetz. Quant aux livres de Johann Chapoutot, spécialiste du nazisme, ils sont à retrouver sur la page de la Marche du Monde, c'est sur RFI.fr. Et le tout dernier, La Révolution culturelle nazie, est publié aux éditions Gallimard. L'Allemagne face à ses réfugiés, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde signé Valérie Nivelon et mise en onde par Elliot Bourrel. Exprimez-vous sur notre page Facebook, réagissez, podcastez, cette émission c'est la vôtre.